Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on va vous parler d'une personne complètement atypique et qui a fait le chemin de Berlin à Jérusalem, puisqu'elle est morte à Jérusalem, qui est une poétesse allemande juive qui s'appelait Else Lasker-Schüler. Et le titre de l'émission s'appelle « La clocharde céleste ». Toutes les illustrations sonores, les petites ponctuations vont être de quelqu'un qui était l'exact contemporain et qui vivait à Berlin et qui a connu Else Lasker-Schüler. C'est donc Arnold Schönberg, encore une fois. Là, c'était extrait des 5 pièces pour orchestre, mais tout le reste va être extrait d'une œuvre qui a été écrite pour les cabarets berlinois, où vivait également Else Lasker-Schüler, c'est-à-dire cette œuvre s'appelle Le Pyrolunaire. En épitaphe d'Else Lasker-Schüler, on pourrait mettre cette phrase qui est d'elle. « 10 loups sont venus s'abreuver à ma source ». Lors de son discours du 20 novembre 2003 pour l'acceptation du prix Nobel de littérature, l'Autrichienne Elfried Jelinek fit ce vibrant hommage à Else. « Écolière, j'adorais la stature extravagante, exotique et bariolée d'Else Lasker-Schüler. Je voulais à tout prix écrire des poèmes comme elle, et même si je n'en ai point écrit, elle m'aura toujours marqué. » Pour parler de cette créature extravagante, laissons-lui la parole. Ce texte s'appelle « Mon peuple ». Le rocher devient pourri d'où je sautais, et chante mes chansons à Dieu. Soudain, je m'étale hors du chemin, et je coule tout en moi, loin de tout. Seul sur la pierre des plaintes vers la mer, je me suis tant immergé que mon propre sang est fermentation, et toujours, toujours encore l'écho en moi, quand affreusement vers l'Orient, le rocher pourri, mon peuple hurle vers Dieu. Je sais que je dois mourir bientôt, pourtant tous les arbres brillent vers le baiser de juillet si longuement espéré. Mes rêves deviennent blafards. Jamais je n'ai écrit une fin si triste dans les livres de mes rimes. Tu brises une fleur pour me saluer. Déjà, je t'aimais en germe. Moi, je sais que je dois mourir bientôt. Mon souffle flotte au-dessus du fleuve de Dieu. Je pose doucement mes pieds sur le chemin de l'éternelle demeure. Ceci donc pour vous donner un aperçu de la poésie d'Else Lasker-Schüler Et bien entendu, hélas, j'étais obligé de faire toutes les traductions moi-même, puisqu'il n'existe rien en français, sur Else Lasker Schüler. On peut la croire soit démente, soit extralucide, car cette petite femme aura enflammé son siècle. C'est elle, vraiment elle, qui aura été le porte-parole de l'expressionnisme allemand, aussi bien d'ailleurs en écriture qu'en peinture. Et Gottfried Benn, son amant, puis plus tard son ennemi, car il se sera rallié au nazisme, dira d'elle « Ce fut la plus grande poétesse lyrique que l'Allemagne ait jamais eue. » Karl Kraus, un humoriste viennois très féroce, l'avait désignée comme la plus forte et la plus impénétrable force lyrique en Allemagne. Je le pense aussi, mais je me suis servi de ces deux grands noms pour situer l'immense Else, qui, dans ce poème à sa mère, écrit ceci. « Mère, une étoile blanche chante une chanson de mort dans la nuit de juillet, comme un carillon de mort dans la nuit de juillet. Et sur le toit, la main des nuages, la main frôlante, humide, recherche ma mère. Je sens ma vie nue, elle s'élance hors de ma patrie. Ma vie ne fut jamais aussi nue, aussi donnée au temps, comme si fané je me tenais derrière la fin du jour, entre les immenses nuits, seule. » Else était maigre, très maigre, et ses yeux étaient immensément tendus vers la personne qu'elle regardait, vers vous. Et une force terrible émanait de sa personne qui pouvait mettre mal à l'aise d'ailleurs. Else Lasker Schüler envoûte ou fait jaillir la haine par sa personne provocante, par sa vie provocante. Elle était tout entière provocation. Elle mendiera d'ailleurs, et quand je dis mendier, c'est au sens propre, elle faisait la manche, hein. Elle mendiera une partie de sa vie pour se nourrir, parce qu'elle n'avait jamais d'argent. Elle fera exploser les valeurs bourgeoises et la forme poétique d'ailleurs. Elle était peintre aussi, poète bien sûr, mais surtout meneuse, meneuse de bande, meneuse ardente des causes intellectuelles. C'était une amante passionnée. Et maintenant, quand on regarde en arrière, on s'aperçoit qu'elle reste une comète foudroyante qui sera passée dans notre ciel. Et nous n'avons pas encore pris toute la mesure immense. Il faut comprendre ce qu'elle était. Et pour comprendre cela, il faut savoir ce qu'était Berlin au début du siècle. Parce que tout ce Berlin-là, c'est elle qui l'a façonné. Ses amis, qu'elle vit souvent mourir autour d'elle, s'appelaient Georg Trakl, le Viennois, Franz Werfel, autre Viennois, ou Franz Marc, l'immense peintre qui, avec Paul Klee, aura fondé le Cavalier Bleu d'Erblauer Reiter. Il y en a bien d'autres encore qui sont au bord de sa route. Et elle aura survécu à plusieurs générations, en fait. La première génération se fit décimer pendant la Première Guerre mondiale. Décimer, ça veut dire faire sortir un numéro en comptant de 1 à 10 et le fusiller. Je vous rappelle cette définition. Et la deuxième aura été également décimée par le nazisme. Else a vu tout cela. Perte et absence. Exil et projections bibliques, parce qu'elle lisait beaucoup la Bible, feront le fondement de son œuvre. Paul Hill dira, qui était son ami le plus proche, avec qui elle avait beaucoup correspondu, dira d'elle, c'était une Sappho qui aura traversé de part en part le monde. C'était plutôt un nouvel ange bleu. Je me réfère au film L'ange bleu, avec Marlène Dietrich. Et elle aura été la madone des cafés littéraires. Et tous les hommes que l'aura côtoyé devinrent des professeurs Unrat, c'est-à-dire des gens qui auront perdu toute volonté de paraître pour lui embrasser les pieds. Elle sera jamais le prince de Thèbes. Je vous expliquerai pourquoi Thèbes, ville d'Égypte. Mais c'était en fait tout simplement un petit bout de femme qui aurait été prise complètement dans le tragique entre Berlin et Jérusalem.
Den Wein, den man mit Augen fliegt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Eine Springflut überschwemmt den stillen Horizont. Man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder.
Cet extrait du Pierrot Lunaire décrit exactement cette période. Ça s'appelle Bandestrunken, c'est-à-dire les tâches que fait la lune. Il s'agit là de monde blafard et tragique. Le monde des cabarets, le monde souterrain un peu de Berlin. Pour vous en faire une bonne idée, je vous renvoie à deux films. L'œuf du serpent, d'Ingmar Bergman, et surtout Cabaret de Robert Foss avec Lisa Milani. Else était tout entière dans ses jeux de rôle. Elle se faisait appeler le Jaguar ou le Prince de Thèbes, se croyait une résurrection d'une ancienne divinité égyptienne. Et elle-même baptisait tout son entourage de nouveaux noms. Franz Marc était bien sûr le Cavalier Bleu, Karl Kraus le Dalai Lama, Gottfried Benn, Giselher le Barbare, et il deviendra barbare d'ailleurs, Georg Trakl était le Cavalier en Or, Franz Werfel le Prince de Prague, Peter Hill, s'appelait Saint-Pierre pour elle, et Oscar Kokoschka était le troubadour, le géant. Cette rencontre d'ailleurs fit des étincelles, parce que Kokoschka avait également un tempérament volcanique. D'autres encore se firent totémiser de ces noms étranges venus d'autres planètes. Ses amis furent foison, et parfois souvent aussi ses amants, mais en tout cas toujours ses égaux et ses amis. Gottfried Benn, surtout, à qui elle était le plus attachée, jusqu'au moment où elle découvrit dans le tiroir de la chambre où il couchait tous les écrits nazis. Du jour au lendemain, à l'instant même d'ailleurs, elle prit ses affaires, ne lui parla plus jamais. Il y avait Gerhard Kroesch, Karl Kraus dont elle a parlé, Franz Murnau bien sûr, qui donne très bien également le climat expressionniste de ce monde. Richard Demel, Alfred Döblin, Tristan Tzara, Glaupus, Walter Benjamin, avec qui elle était très amie. Martin Buber, tout ça faisait partie un peu du petit cercle de l'intelligentsia juive. Et j'en oublie énormément, tant était foisonnante cette ville de Berlin qui était le cœur européen de la culture, le cœur moderne. Et sous son versant bohème, il y avait plein de cafés où l'on refaisait l'art et le monde. Et elle se promenait dans les rues de Berlin, coutrée en prince de Thèbes, avec une tenue parfaitement imaginaire folklorique, parce que je doute que les princes de Thèbes se promenaient ainsi, ils auraient dû se promener de profil en plus, et elle faisait peur à tous les bourgeois, parce que c'était sa tenue habituelle. Elle a dit d'elle-même, cette phrase est cruelle et intéressante, « Si j'avais été un homme, j'aurais été homosexuel. » Car elle creusait toujours la part féminine de ses amants au tréfonds d'eux-mêmes. Mais elle, je ne dis pas ça pour vous rassurer, parce que chacun est libre, elle restera une pure hétérosexuelle, tout à fait complexe, parce qu'elle était totalement dominatrice. Elle était plus trop proche du sadomasochisme, où elle jouait le rôle de l'homme avec l'homme, qu'autre chose. Un autre problème plus doux, quand même, pour adoucir cette image de cet être ahurissant qu'est Else. C'est le deuxième poème dédié à sa mère. La bougie a brûlé Toute la nuit, mère, mère adorée, mon cœur brûle sous mon omoplate. Toute la nuit, mère, mère adorée. Partout dans le monde, je cherche une ville qui a un ange devant la porte. Je porte ses grandes ailes sur moi. Mes omoplates sont brisées lourdement et sur le front son étoile comme un sceau. Voilà, ce poème très court, elle fait souvent des poèmes très courts. Pour juste vous faire voir comment les images bibliques traversent toute son œuvre. Mais restant à l'expressionnisme, aussi bien l'expressionnisme pictural que l'expressionnisme de l'écriture, cet expressionnisme-là sera né vers les années 1900 et aura duré jusqu'à la guerre, jusqu'en 1914, où la plupart des grands peintres d'ailleurs se feront tuer, comme Franz Marc et également Mack, si j'ai bonne mémoire. Et celle qui a créé et participé à deux mouvements fondamentaux, qui s'appellent Die Brücke, le pont, mouvement qui s'est fait en 1905, qui s'éteindra en 1913, et le plus connu, qui est le Blaue Reiter, le cavalier bleu, où Franz Marc et Paul Klee, mais très peu Paul Klee, avaient fait ce mouvement. Elle participera aussi à la création du Bauhaus. Elle était amie avec Graupius, qui sera le créateur. Elle perpétuera le mouvement Dada, puisqu'elle était l'amie de Tristan Tzara. Et ce mouvement en prenant son plein essor en 1918. Et c'était ce qu'on appelait les Berliner Secessionisten, puisque les sécessionnistes étaient à Vienne, autour de toute la bande Alfred Roll, Klimt, etc. Et tous les peintres qu'elle a connus, qu'elle a poussés, qu'elle a fait accoucher, on a parlé d'Oscar Kokoschka, il faudrait parler d'Émile Nolde, qui a mal tourné aussi, puisqu'il a flirté un peu avec le nazisme. Mais le nazisme lui interdira de peindre d'ailleurs. Ludwig Meidner, Auguste Mack, Paul Klee, Franz Marc, Kirchner, Schmidt-Rottluff, Vassili Kandinsky. Tout cela en fait revivre les couleurs de la peinture et changer le cours de l'art. Et tous auront une place de choix sur la liste des artistes dégénérés dressés par le nazisme.
Eine blasse Wäscherin wäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher. Nackte silberweiße Arme streckt sie müde in die Flut. Ständig im steifen Wind das Morgensegel strömt. Eine blasse Wäscherin wäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher und die sanfte Magd bis Himmels von den Zweigen fort umschmeißt.
Cette musique étrange, qu'elle a entendue. Cette musique a été faite pour des cabarets. C'est pour ça qu'on ne chante pas dans cette musique de Schoenberg. C'est du parler chanté. Ça s'appelait la lune malade qui court autour de nous et nous montre nos propres maladies. Donc Hels a contribué à cette poursuite du monde de l'invisible, du monde magique derrière le réel, l'intrusion des bêtes métaphysiques en fait, qui tout cela concourt vraiment vers la découverte de l'âme humaine. Et Hels sera la théoricienne de tout ce mouvement. La plupart des peintres faisaient ça par instinct. Elle leur a appris à théoriser et à bâtir un discours idéologique. Car avant même que ces peintres fassent ces toiles, elle avait déjà totalement intégré dans ses propres textes. Pour bien comprendre ce mouvement, c'est la parole de Paul Klee qui le résume le mieux. L'art ne doit pas reproduire le visible, mais rendre visible l'invisible. Hels, croqueuse sincère des hommes, qui parfois se jouait d'eux, et parfois elle se jouait d'elle-même aussi, mais il faut lui dire qu'elle était sincère. Elle tombait totalement et radicalement amoureuse à chaque fois. et elle écrivait des poèmes pour chacun de ses amants, ses nouveaux amants. C'est pour ça que son œuvre est assez abondante. Elle rayonnait auprès d'eux. Elle leur faisait se découvrir l'art. L'immensité de ses dons était immense. C'était une théoricienne, c'était un peintre, c'était une philosophe, c'était un poète. Et tout cela, elle le menait avec une passion ardente, éclatante. C'était elle, je le répète et je le martèle pour que vous en soyez persuadés, qui était la figure de proue de l'avant-garde de ce Berlin du début du XXe siècle, avec sa bohème qui a réinventé le monde. Certes, Berlin, ce n'est pas le monde lumineux que Franz Marc, avec ses empilements de chevaux bleus, nous montre. C'est plutôt le monde énigmatique, torturé, violent des expressionnistes. Ce qui advint au bout de tout cela, c'est la peste brune de Hitler. Elle l'avait vu venir, déjà dans le premier complot de Nuremberg. Elle l'avait pressenti, vu, compris, et elle s'enfuit d'Allemagne dès 1933. On va parler un peu de sa biographie, parce que généralement la biographie nous donne que des détails bourgeois et domestiques des gens. Mais là, Else est sa biographie, et son autobiographie est Else. Son autobiographie tient un mot. Je suis né à Thèbes, en Égypte. Mais en fait, je me suis réincarné et revenu au monde à Eberfeld, en Rhénanie. Je suis allé 11 ans à l'école, j'en ai eu marre. J'ai cessé l'école, je devins une sorte de Robinson. J'ai vécu 5 ans au Levant, et depuis, je végète. Sa véritable biographie donne cela. Elisabeth Schuller, tout le monde l'a appelée Else, était née le 11 février 1869 à Eberfeld, qu'on appelle aujourd'hui Wuppertal. C'était la cadette de 6 enfants. Son père était quelqu'un d'assez remarquable, jovial. Sa mère, par contre, était difficile, repliée sur elle-même. Elle sera très vite une fille rebelle. Elle plaque l'école qui l'ennuyait profondément dès 11 ans, c'est elle qui le dit, c'est vrai. Elle était maladive, ou elle feignait d'être malade sans arrêt pour, être toujours à la maison et faire ses études pillant dans les livres. À 26 ans, elle se marie avec un certain docteur Berthold Latzker, bien plus âgé qu'elle, mais en fait, elle voulait fuir la maison. Ça rappelle des biographies de certains autres. Ainsi, elle prend ses distances avec sa famille de banquiers, parce que sa famille était très riche. Et elle peut enfin fuir la petite ville de province. Enfin, son rêve d'aller à Berlin, qui la fascinait tant, est réalisé. Donc, ce vieil homme, ce Berthold Latzker, lui permet de devenir libre. Immédiatement là, elle se rend, non pas au milieu des poètes, tout ça, non, elle s'inscrit pour des cours de peinture de Simon Goldberg. Et elle va fonder un atelier de peinture. Et à partir de là, elle se lance à corps perdu dans une vie effrénée de bohème. Elle rencontre des peintres, des musiciens, des écrivains, et c'est elle, qui est la plus éblouissante de toutes, qui devient le pivot d'une vie violente et exaltante dans cette nouvelle communauté qu'elle s'est faite. Elle a une sorte de flamme noire et de passion qui me fait penser irrésistiblement à une autre comète merveilleuse qui s'appelait Marina Tsvetaeva. D'ailleurs, toutes les deux n'étaient pas très jolies, mais toutes les deux étaient des croqueuses d'hommes et enflammaient tout ce qui les touchait, aussi bien le milieu d'intellectuels excentriques dans lequel elle évoluait que tout le reste. Elle eut un enfant, Paul, dont on n'a pas trop la trace d'ailleurs, qui était de père inconnu, car Else n'a jamais voulu en dire le nom. C'était évidemment pas son mari. Et il est né le 24 août 1899. Son mari, qui était vraiment une bonne patte, l'aura reconnu. Mais le couple est brisé, divorce, un an après, en 1900. Alors Else poursuit seule sa vie de danse au-dessus des Balkans. Désormais, elle n'a plus d'argent, puisque son mari banquier lui en donne plus, et elle ne s'humiliera pas pour en avoir. Elle appelle pas ses parents à la rescousse. Elle devient clocharde. Elle survit que par l'aide de quelques amis. Elle va dormir sur les bancs publics ou dans les gares. Elle va squatter des chambres. Elle mangera très peu. En fait, elle ne vivait que de lectures qu'elle donnait de ses poèmes. Du fait de taper ses amis qui en auront un peu marre à la fin. Elle faisait des performances. Ses performances devaient ressembler d'ailleurs à celles de Serge Pey, parce qu'elle mettait tout son corps en avant, de quelques conférences. Et d'ailleurs, en 1913, c'est-à-dire 13 ans plus tard, cette clocharde, qui n'avait pour orgueil que d'être propre, d'être bien mise sur elle, lance un appel au secours dans sa revue, qui est une revue qui aura marqué le siècle, s'appelait Der Fackel, le flambeau, pour la soutenir matériellement. Son œuvre et sa vie, et sa vie et son œuvre. Poésie et vie ne faisaient qu'un pour elle, les gouffres qui toujours s'effondraient entre ces deux domaines ne se laissaient point enjamber. Ceci faisait les douleurs et les confusions de son moi faisaient d'elle ses poèmes. Quand ses parents, juste une anecdote, quand ses parents mourront, ils mourront presque ensemble, elle ne dormira plus sur les bancs, elle dormira sous les balcons, pour une seule raison, je ne veux pas que mes parents, du haut du ciel, puissent voir ce qui est devenu leur fille. Elle va se lier avec le cercle de poètes de Peter Hill, elle va publier un énorme recueil de poèmes qui s'appelle Strix, qui sera éreinté par la critique, parce que c'est à base de clés énigmatiques, de rappels de l'Égypte, du monde juif. Et elle va partager un temps l'existence d'un autre poète qui s'appelle Le Erftwadwalden. Il ne reste pas grand-chose. Son vrai nom, c'était un juif quand même, qui s'appelait Georg Levin. Elle se marie d'ailleurs en 1901 avec lui. Il était l'éditeur d'une revue fameuse, la revue expressionniste par excellence, Der Sturm, la tempête. Et c'est elle qui va, en fait, alimenter cette revue par des écrits théoriques, faire venir à elle tout ce qu'il y avait comme talent, et c'est elle qui va fonder la galerie expressionniste, qui est célèbre maintenant, qui s'appelait Der Sturm, elle aussi. Walden fit se rencontrer, son mari donc, toute l'avant-garde européenne, et il sera l'éditeur. Et une pièce de théâtre d'elle, c'est parce qu'elle a beaucoup écrit pour le théâtre, dit Wuppert, puisqu'elle venait de Wuppertal, parle de cette période de basculement de monde à l'autre. D'ailleurs, un petit extrait d'une musique pour montrer comment bascule le monde s'appelle La Nuit, c'est toujours le Pierrot Lunaire.
Strahlung spielt dein bleiches Qualgebot.
Cette musique de Schoenberg, toujours qu'adorée. Else, je me suis trompé dans le titre, c'est La Lune Malade, c'était là. Et l'accompagner. En 1912, elle a divorcé de Walden après 2 ans de séparation. Elle se lie avec Gottfried Benn. Et je vous ai raconté cette horrible anecdote quand elle découvre que son être le plus proche était déjà complètement vérolé par le nazisme. Mais le véritable tournant de son œuvre vient du choc de la mort tragique de son ami le plus intime, Peter Hill, c'était en 1904, qui aura été en fait son mentor. Alors à partir de là, elle bascule dans le mysticisme. Et ça va se traduire par l'écriture de ballades hébraïques. Il y en a de très longues, c'est pour ça que je ne les ai pas toutes mises là. En plus, quand on les lit, quand on les traduit, il y a une part d'obscur que je ne suis pas arrivé à rendre dans ma traduction. Donc, 2 basculements. Basculement dans son judaïsme, par les ballades, et plongé dans le Levant, l'Orient, la terre promise, la terre d'or, la Jérusalem, si vous voulez. Et elle va plonger complètement dans les contes orientaux. Et elle va en écrire, s'appelle d'ailleurs Mon cœur. Et le fait de pouvoir écrire tout ce recueil, de revenir à des sources réelles ou imaginaires, et puis sa transformation en prise de thème, la sauveront de la folie. Je vais vous lire maintenant son poème le plus célèbre, qui est extrait d'un recueil, je sais, peut-être que vous le trouvez celui-là, s'appelle Le Piano Bleu. Et voici le seul poème que les Français sans doute connaissent de Else, et j'en suis même pas sûr. Chez moi, j'ai un piano bleu, mais je ne sais aucune note. Il se tient dans le noir de la porte de la cave. Depuis le jour où le monde est devenu brutal, les étoiles jouaient jadis à 4 mains, la femme lune chantait dans le bateau. Maintenant, des rats dansent dans sa gorge, cassés le clavier. Je pleure pour la mort bleue. Ah, cher ange, ouvrez-moi, j'ai tant mangé du pain amer. Les portes du paradis, ouvrez-moi-les pendant que je vis encore. Oui, même contre les interdictions. Là, juste un mot sur le texte quand même, parce qu'il rejoint tellement ce que fait Else. Il dit juste celui, 2 phrases. Hein. De sinistres papillons noirs du soleil ont à jamais éteint la gloire. Et du ciel en poussière noire descendent sur nos désespoirs de sinistres papillons noirs. ceci pouvant rendre l'atmosphère expressionniste du Berlin. Dans le poème que je vous ai lu, vous avez vu encore apparaître cette notion de terre promise, des anges qui descendent les échelles ou les remontent, et des portes du paradis qui sont souvent fermées. En 1913, Elze voyagera à Saint-Pétersbourg et Moscou. Et quand la Première Guerre mondiale éclate, elle sait, elle comprend, elle, bien avant tout le monde, que c'est la mise au tombeau de toute la culture européenne. Et comme elle était farouchement pacifiste, elle refuse d'annoncer des chants nationalistes et elle s'enfuit en Suisse. Et c'est là qu'elle vraiment elle côtoie totalement Tristan Tzara et le mouvement dadaïste. On n'entend plus parler d'elle. Quand tout à coup, en 1920, elle publie d'un seul coup 6 volumes de poèmes, beaucoup de livres avec des lithographies, je rappelle qu'elle était peintre, et tout à coup, le monde, ce qui restait du monde intellectuel européen, découvre Elze. C'est un livre qui s'appelait Thèbes, et le plus grand metteur en scène de cette époque, je parle en Occident, pas en Russie, s'appelait Max Reinhardt. Il tombe fou amoureux de ses textes et monte toutes ses pièces. Et au milieu de ses pièces, il expose ses dessins. Et là, elle est véritablement intronisée aux yeux du monde, chef de l'expressionnisme. Mais au lieu de rentrer dans ce nouveau rôle, il suffisait de se laisser adorer. Elle ne veut pas. Toujours rebelle. Elle reste une clocharde, refusant tout ordre établi, même la reconnaissance de ses amis. Son fils Paul meurt très vite de tuberculose et là elle est foudroyée, c'était en 27. Alors elle commence à se retirer du monde, elle ne veut plus voir personne, elle se laisse aller. Mais sa réputation de scandaleuse était déjà là. Dès cette époque, on parle des années 26-29, quoi. Les nazis la baptisèrent et la pourchassèrent comme juive pornographique et demandaient sa tête, bien plus que tous les autres. Parce qu'elle avait compris, elle avait écrit, alors que des gens comme Buber ou bien d'autres, même Benjamin, n'avaient rien compris la montée du nazisme. Elle avait vu que la bête immonde viendrait la dévorer. Alors elle va émigrer en Suisse à Zurich en avril 33. Et pourtant, en 32, elle avait reçu le plus grand prix littéraire allemand, qui était le prix Kleist. Mais bien sûr, la nationalité allemande fut un des premiers gestes d'Hitler en arrivant au pouvoir, lui retirer la nationalité allemande. Alors, elle ne connaîtra plus Berlin. Elle va changer Berlin dans une ville qui s'appellera Jérusalem dans sa tête, qu'elle connaît peu mais qui la hante. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Plusieurs choses. Elle se replonge totalement dans sa culture juive et biblique, qui n'était pas négligeable pourtant. Et ensuite, elle fait des allers-retours constants en Palestine. Ça me gêne d'appeler le mot Palestine, mais enfin, c'est bien ce qui était marqué sur les cartes. Mais sachez que la Palestine n'a jamais existé, c'était l'Empire ottoman. Alors, elle va y aller en 34 et en 37. Puis, à plus de 70 ans, elle fait son alia. Elle se fixe en 39, à plus de 70 ans donc, en Israël. Et bien sûr, plus tard, elle aura entendu parler de l'Holocauste, qu'elle aura vu que d'Israël, que de la Palestine. Et tout cet Holocauste qui aura été subi par son peuple. Alors, elle va en écrire. Et elle va faire donc plein de thèmes bibliques. Et voilà ce qu'elle dit d'ailleurs. « Je vais aller au jardin de Gethsemane et prier pour vos enfants. » Entre nous soit dit, c'est un curieux mélange, parce que le jardin de Gethsemane, c'était la dernière nuit de l'imposteur nommé Jésus-Christ, d'après mes souvenirs, à cette époque. Donc c'était pas forcément un lieu juif. Mais enfin, elle mélangeait un peu tout, la pauvre Elze. Et la Terre Sainte, elle apprendra l'hébreu d'ailleurs, ne fut pas à la hauteur de ses espérances. Et là aussi, elle sera clocharde et solitaire. Elle ne survivait que par la lecture qu'on lui permettait de faire. Et la première qu'on lui autorisait à faire dans sa nouvelle patrie, je cite la date parce que c'est quand même bizarre, hein, c'est le 20 juillet 1941, elle avait 72 ans, Et pour la première fois, en ce qui sera Israël, édité depuis 1939, je vous rappelle, hein, on lui permet de lire ses poèmes, parce qu'il y avait une communauté allemande, hein, là-dessus. Et un petit éditeur qui a édité son œuvre, hein, mais en allemand, je vais vous expliquer pourquoi, il s'appelait Selman Schocken, lui donne une petite bourse. Et là, elle survit au milieu de ses illusions, de ses délires, parce qu'elle commence à devenir folle. Elle écrit des lettres enflammées à Goebbels, à Mussolini, en lui disant « Moi, Else, prince de Thèbes, je vous demande de sauver mon peuple juif. » Ils n'ont jamais répondu, l'ont-ils jamais reçu. Et elle est là, au milieu de son immense misère, sa solitude. Et en plus, additionné à cela, l'ingratitude de son propre peuple va la blesser à jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? On est avant la guerre de libération, oui, de 48. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait dans cette époque de 39 à 40 et quelques, 43 au moins ? Elle fait des appels incessants pour faire la paix entre Arabes et Juifs. Ce qui était assez mal compris par les habitants qui connaissaient déjà les pogroms de Hébron, des choses là. Ils comprenaient mal que quelqu'un, alors qu'il y avait le mufti de Jérusalem qui appelait Hitler à exterminer tous les juifs en Israël, c'était pas encore Israël, on la comprenait mal. Et elle allait dans les synagogues orthodoxes. Mais qu'est-ce qu'elle faisait au milieu des papillotes, des caftans du 18e siècle, 19e, elle s'asseyait toujours parmi les hommes et personne n'osait la chasser. Ses derniers textes, les plus beaux d'ailleurs, c'est Mon piano bleu dont je vous ai déjà dit un extrait, ont été édités à 330 exemplaires en tout et pour tout. Et le dernier est Je, Ich, und Ich, ne fut pas compris du tout. Elle va mourir d'une crise cardiaque, complètement usée, le 22 janvier 45 à 7h25. On connaît l'heure. Elle aura été enterrée sur le mont des Oliviers. Ce qui est assez étonnant comme trajectoire de Berlin à Jérusalem jusqu'au mont des Oliviers. Et à la fin de sa vie, elle disait « Vous ne comprenez pas Dieu, vous les orthodoxes. Dieu n'est pas un petit bourgeois. Il est comme moi. » En fait, cette personne excentrique, et merveilleusement excentrique, dit quoi dans sa poésie ? Elle parle d'atmosphère, de lune, de bougie, d'amour, qui ne vient pas, qui ne comprend pas. La nuit, comme dans les textes de Schoenberg que je vous ai passés, est omniprésente. Les lettres envoyées aux reçus sont là, souvent reprises. Elle reprend les textes des lettres dans ses poèmes. Ses dessins, il y a partout des dessins. Si vous voyez des manuscrits, c'est des pages d'art. Elle était à la fois silence et nervosité extrême. Et elle se saoulait au café, elle, comme Balzac. Et tout semble imbibé de ratures. Toutes ses écritures sont faites et refaites. Et les contes bibliques la hantent. Ceux de l'Orient sont là. Tous ces monstres métaphysiques dont j'ai déjà parlé sont sur ses genoux. Et ils lâchent leurs démons. Les mots sont réduits à l'essentiel. Ils sont très durs. Quand on traduit la langue allemande, il faut rendre à tout prix cette dureté. Et elle fait ça pour capter correctement tous les instants de vie, donc ses poèmes. Le souvenir des amis, des tableaux aussi, qui poussent autant de stridence qu'elle. Et il semblerait que tous les amants sont penchés sur elle, surtout ceux qui l'ont abandonnée, ceux qui ont fui. L'obsession de quelques mots toujours au bout de son crayon. Lune, bleu. Bleu est une couleur qui revient souvent. Hein. Rappelez-vous de Blaureita. Âme, pleurs, douleur, vie, mort, qu'il faut consoler. Étreinte, baiser, étoile, frontière perdue, cœur, sang, ange, douceur, monde. Moi qui ai beaucoup lu d'Else Lascarchula, je retrouve souvent ces mots-là. Et ces mots reviennent, se mélangent. Et elle est un poète qui ne veut pas faire de belles métaphores, hein. C'est pas Auslander. Non, elle veut la violence, la gifle du mot. Elle n'est pas un livre d'images, mais tout simplement un livre de vie. elle, donc le prince de Thèbes, voyait très loin en nous, très loin à elle, et surtout plus loin que nous tous. Plus qu'un peintre, un poète, un dramaturge, elle fut la première à réaliser ce qu'on appelle aujourd'hui des performances ou des installations. Elle mêlait les arts, elle savait danser. Alors elle dansait sur ses textes en s'accompagnant de clochettes, aussi bien à la main qu'au pied. Et ensuite, elle disait ses textes, tout à coup, elle quittait l'allemand pour parler une langue qu'elle avait inventée elle-même, qu'elle appelait Ursprache, la langue de l'origine, la langue du début. Elle fut méprisée, accusée de grossièreté. On se foutait de sa gueule, il n'y a pas d'autre mot. On riait d'elle. Et ses chaussures, elle avait des chaussures extrêmement bizarres. On avait toute une collection. Et elle mettait sur sa tête les chapeaux de plus mauvais goût qu'on ait jamais vus sur cette planète. Mais aussi, on pouvait l'admirer passionnément, cette clocharde céleste. En fait, elle ne savait ni vivre ni mourir. Elle vociférait sans raison. Et elle était tout entière tendue vers la dure vérité au travers des mensonges, parce qu'elle se racontait des histoires. En fait, c'est comme un mendiant que vous pouvez trouver dans les rues de Toulouse, que personne ou presque ne veut écouter. Elle, mendiante, les trois quarts de sa vie, était en fait un être énigmatique, une sorte de prophète du caniveau, qui était totalement tragique. Et c'est elle... Et elle seule, il n'y en a pas d'autre à ma connaissance. Je refuse à tout autre de pouvoir l'avoir été. C'est elle qui fait la fusion essentielle dans l'histoire de l'art entre judaïté et la source expressionniste allemande. Et ce conflit de ces deux racines, juive et expressionnisme, en fait, l'aura écartelée toute sa vie. Elle était ce prince de Thèbes exilé et ayant perdu sa royauté. Elle était devenue une légende passée un jour près de nous. Son grand-père, je vous le signale, était un grand rabbin vénéré et on venait le consulter pour des miracles. Et ses parents, des juifs, qui allaient à la synagogue, certes, mais qui étaient, sous l'influence de Moïse Mendelssohn, assimilés. Et elle, c'était cette folle égérie d'un Berlin entre les guerres où se construisait la nouvelle modernité. Puis à Jérusalem, elle était recluse. Alors là, il y avait une langue inconnue pour elle, l'hébreu. Qu'elle comprenait à peine. Les Allemands immigrés ne voulaient pas parler à une folle qui semblait bafouer le monde. Et elle détestait tout ce que l'on avait écrit sur elle. Elle ne voulait plus parler. En fait, ce qui est bizarre, vers la fin de sa vie, elle ne rêvait que de revoir Berlin. Mais le Berlin d'avant. D'avant la guerre nazie. Elle, que personne n'invitait plus, rêvait ceci. Dieu vint et me dit, je t'invite. J'étais assise autour d'une table immense, moi qui n'ai jamais pu manger à ma faim. Et à côté se tenait l'ange Gabriel, et il me tendit un rôti de la main de ma mère. C'était à peu près le plum pudding que nous mangions à la maison. En fait, le poids de sa mère est très 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 important. Elle avait un mysticisme intérieur qu'elle projetait sur les gens aimés et aussi sur la mort. Et son art qui a fusionné l'expérience juive, l'amour de sa mère et la haute culture allemande lui aura servi à être une des toutes premières à crier l'émancipation féminine jusqu'à la provocation parce que c'était une immense provocatrice. Et c'est elle qui aura vu et réalisé la mutation du monde. Avec son individualisme forcené. Et cette étrange étoile qui fit le passage de Berlin à Jérusalem, où elle aura fini sa vie, cette personne qui a refusé toute traduction de ses textes en hébreu, alors que je vous ai dit qu'il y avait des maisons d'édition, elle disait la chose suivante. « Mes poèmes sont assez juifs en allemand. » Et comme personne ne pouvait discuter avec elle, on l'a laissé tomber. Elle avait une attitude très libre envers la religion. Elle était mystique, mais elle n'était pas religieuse. Elle scandalisait ainsi jusqu'à son dernier souffle. Je vous ai raconté ses intrusions au milieu de Mea Shearim. Elle ne parlait pas l'yiddish, elle ne parlait pas l'hébreu. Et en même temps, le sens des prières pour elle n'avait pas besoin de compréhension. des langues du commencement du monde qui n'a pas besoin d'explication. C'est une très belle étoile filante. Elle a apporté la poésie, son baroque expressionnisme à tout ce monde-là. Ses dessins étranges, ses lettres exaltées, ses poèmes surprenants et profonds, entre rêves fous et angoisses, laissent une trace inaltérable. Moi-même, je lis et je relis sans arrêt Else. Cette rebelle absolue, cette mendiante vociférante, qui gueule contre tout ordre bourgeois ou matrimonial, est une épée flamboyante dans la chair du siècle. Cette énergie volcanique a marqué au feu rouge son temps, et tous les hommes qui l'ont approchée, elle les aura tous calcinés. Elle fut cette clocharde céleste qui, de Berlin à Jérusalem, aura vécu, je vous ai dit, sous les bancs, puis sous les balcons pour que ses parents ne la voient pas dans sa déchéance. Elle a voulu passionnément, méthodiquement, vivre l'exil de tous les jours de la vie. Elle n'aura pas raté sa vie. On a pu la croire folle, elle ne l'était pas. Car le véritable scandale, c'était pas elle, c'était les autres qui ne l'ont pas comprise. Pauvre elle fut, émancipée, elle aura toujours été. C'était en fait une petite étoile et une grande comète. Et elle continue de déambuler en nous avec ses vêtements orientaux, parfois avec pas grand-chose à se mettre aussi. Elle croyait si fortement à la force des mots qu'elle avait aboli toute frontière entre réalité et vision, ce qui fait que elle était un peu démente. Pourquoi ? Parce qu'elle avait plus d'étanchéité entre ce qui est le monde réel et le monde d'ailleurs. Elle était briseuse de tabous. Elle aura cassé le tabou du monde réel. Et dans le caravansérail de ses rêves, de sa poésie, elle qui se croyait créature de l'Orient, nous retrouvons nos oasis. Belle et obscure reste sa poésie. Très difficile à traduire car elle fait des jeux de mots, des néologismes. Ben, nous avons au moins essayé. Voilà ce qu'elle dit. Mes poèmes sont impersonnels. Ils doivent toujours se pencher vers les autres. Quelle belle définition. Passage du Pyrolunaire, qui s'appelle « Vieux parfum d'autrefois », décrit un peu ce Berlin jamais perdu. Pour terminer, je vais vous lire un ou deux poèmes d'Else. Le premier s'appelle « Fin du monde ». Il y a pleurs sur le monde, comme si le cher Dieu était mort, et l'ombre de plomb, elle tombe, pesant le poids des tombeaux. Viens, nous voulons nous cacher encore plus près. La vie repose dans tous les cœurs comme en un cercueil. Toi, nous voulons nous embrasser profondément. Il bat une nostalgie ardente en ce monde. Pour cela, nous devons mourir. Me vois-tu, entre terre et ciel ? Nul n'a croisé ma trace, mais ton visage réchauffe mon monde de toi, pousse toute floraison. Quand tu me dévisages, d'où devient mon cœur ? Je repose sous ton sourire et j'apprends à préparer jour et nuit, pour me désenvoûter de toi et te faire disparaître. Toujours je joue ce seul jeu que je connaisse. Ah, je voudrais tant quitter ce monde. Alors, tu pleureras sur moi. Être de sang répande le feu sur mes rêves guerriers. Je dois être, au travers de sombres broussailles, fossés et hauts. Toujours des vagues sauvages se brisent sur mon cœur, ennemi intérieur. Ah, je voudrais tant quitter ce monde. Mais pourquoi si loin de lui gère une lumière vacillante autour de la tombe de Dieu? Et le dernier pour vous quitter, il est très bref, s'appelle Petite chanson de mort. Je suis si calme, tout le sang sourd à l'intérieur, tout autour si doux, je ne sais plus rien. Mon cœur encore petit est mort doucement de douleur, il était bleu et pieux, au ciel vient un bruit profond, nuit sur nous. Au revoir, chers auditeurs.
Durch des Lichtmoos Fluten schweift die See.